Donc aujourd'hui, nous abordons, je dirais, la dernière partie de ce parcours sur les traces, sur les pas de la bienheureuse Alexandrina. Et donc ce sera bientôt l'anniversaire, en toute fin du mois de mars, hein, 30 mars. Et nous arrivons donc à conclure, je dirais, le passage biographique par la fin de vie de la bienheureuse Alexandrina, puisque le 7 janvier 1955, Jésus, qui évidemment toujours se présente devant la bienheureuse Alexandrina et s'adresse à elle, lui fait comprendre qu'elle mourrait en cette année, donc 1955. Et de ce fait, le secrétaire de l'archevêque de Braga, le père Sébastien Cruz, qui a compris fort bien, hein, et qui comprenait très bien ce que disait Alexandrina, va la visiter souvent dans cette période pour la réconforter. Et de ce fait aussi, les tentations, la lutte pour la foi va continuer pour Alexandrina toujours intensément. Et justement, dans son dernier journal, dans le dernier passage de son journal, à la date du 2 septembre 1955, on peut lire: Dans une angoisse lancinante, je répétais mes actes de foi. Je crois Jésus, je crois que c'est pour moi que vous êtes né, que c'est pour moi votre jardin des oliviers, votre calvaire. Je crois, Jésus, je crois. Et là, on retrouve, comme nous l'avions dit auparavant, cette intéressante analogie avec la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux, qui a été confrontée à effectivement cette nuit de la foi, hein, qui a été expliquée, théorisée par Saint Jean de la Croix, un grand maître de l'ordre du Carmel, grand maître spirituel du Carmel. Et cette nuit de la foi, c'est une tentation, je dirais, qui est permise pour justement, à travers cette souffrance intérieure, cette souffrance de porter l'acte de foi sans le sentiment de la foi, sans le secours, la consolation de la foi, eh bien, tous les pécheurs, tous ceux qui refusent de croire, tous ceux qui ferment leur cœur, leur intelligence à la foi, vont donc recevoir cette offrande. De la souffrance de la bienheureuse Alexandrina, comme ils avaient reçu l'offrande, la souffrance de la petite Thérèse, hein, de Sainte Thérèse de Lisieux, dans cette nuit de la foi. Et Alexandrina rajoute: Mon abîme était noir et si profond que seul Dieu pouvait y pénétrer. Ce que fit Jésus. Il est descendu jusqu'à mes profondeurs, ramena à la superficie mon pauvre être et l'illumina avec quelques rayons de sa lumière. Viens ici, ma fille, lumière et flambeau du monde. Toi qui es ténèbres inégalables, tu es lumière qui brille, phare que tout illumine. La ténèbre est pour toi, la lumière, elle, est pour les âmes. Donc, comme on le comprend, c'est justement parce que cette ténèbre de la nuit de la foi enveloppe la bienheureuse Alexandrina que les pécheurs, les âmes donc qui sont en danger dans leur refus, dans leur rejet, dans leur fermeture devant la foi, eh bien les âmes vont recevoir cette grâce, qui est une grâce mêlée au sacrifice du calvaire, pour justement peut-être marcher vers la foi, s'ouvrir à la foi, recevoir la lumière de la foi. Et vient ici donc la lumière dont je suis la source, phare dont je suis le phare. Et là, c'est effectivement le Seigneur qui s'exprime. Alexandrina avait reçu la mission de veiller sur les tabernacles abandonnés, c'est-à-dire sur toute cette impiété, ce rejet, cette impiété, donc ces outrages, comme le signale aussi d'ailleurs la très belle prière de l'ange de Fatima, ces outrages envers les tabernacles, et avait un très grand amour, elle avait un très grand amour pour l'Eucharistie. Et pour cette raison même, elle avait demandé au Seigneur de prendre son âme en un jour consacrée au Saint-Sacrement, à l'Auguste Sacrement de l'Eucharistie. Mais elle avait aussi exprimé le désir de mourir en un jour consacré à la Sainte Vierge, envers qui elle avait un très grand amour filial. Elle l'appelait petite maman, en portugais Maisinha. Et Jésus, qui aimait la Vierge de Balthazar, la petite sainte de Balthazar, d'un amour tout particulier, et Jésus n'a pas manqué de lui accorder ces deux grâces, à la fois la grâce de mourir le jour consacré à l'Eucharistie, et un jour consacré à notre Mère du Ciel, la très sainte Vierge Marie. Et c'est donc le 13 octobre 1955, qu'Alexandrina, dans la paix, le sourire aux lèvres, cet étrange sourire qu'elle avait aux lèvres dans la bière, hein, au moment où elle a été inhumée, rendit sa belle âme à Dieu. Le 13 octobre 1955, donc rappelons que le 13 octobre 1955 était un jeudi, Je dis donc jour où le mystère du rosaire, l'un des mystères du rosaire est l'institution de l'Eucharistie. Et le 13 octobre fait référence également au miracle du soleil de Fatima, 13 octobre 1917, au Portugal aussi, 13 octobre 1917. Donc jeudi 13 octobre 1955 pour Alexandrina, c'est le départ pour le ciel, comme pourrait dire la petite Thérèse, elle entre dans la vie et elle rejoint enfin celui qu'elle a tant aimé, celui qui l'a tant aimé, qui l'a comblé à la fois de grandes grâces mystiques, mais surtout lui ont fait porter les souffrances de sa passion pour les âmes. Rappelons que pour la bienheureuse Alexandrina, il est question de souffrir, aimer, réparer. Alors peut-être avant d'aborder quelques textes, quelques très beaux textes de la bienheureuse Alexandrina, nous pouvons nous demander en quoi justement, aujourd'hui pour nous chrétiens, catholiques, nous pouvons encore justement admettre ou comprendre ou entendre le message de la bienheureuse Alexandrina dans une culture où on valorise à la fois la force physique, la santé, la puissance, la réussite, la jeunesse, alors que la bienheureuse Alexandrina était une grabataire, une femme handicapée qui souffrait et qui, au surplus, portait tous les vendredis la passion du Seigneur, les souffrances, la passion du Seigneur. Hein, les plaies aux mains et aux pieds, la plaie aux côtés, le couronnement d'épines, le portement de croix surtout. Et elle était brisée de souffrance par amour, au sens d'épiphanie de l'amour, pour le Seigneur. Alors, il faut rappeler peut-être à travers ces trois termes, souffrir, aimer, réparer, la signification compréhensible aujourd'hui pour nous, catholiques, chrétiens, qui ne doit pas, je dirais, créer une confusion sur le mode d'efficacité de la souffrance. Ce n'est pas parce qu'on va se faire souffrir, ce n'est pas par masochisme, le goût de la souffrance, qui est un symptôme morbide, c'est parce que la souffrance rejoint celle du Christ en croix. La souffrance rejoint celle de Jésus crucifié. C'est-à-dire que c'est à travers justement cette fragilité, cette faiblesse, cette souffrance, cette vulnérabilité extrême du handicap et de la douleur, que l'amour se manifeste de façon en plénitude. Et c'est dans ce sens-là que la souffrance, en tant qu'elle est d'abord la souffrance rédemptrice du crucifié, du Seigneur crucifié, eh bien c'est dans ce sens-là que la souffrance va, je dirais, se mêler, la souffrance d'Alexandrina va se mêler à celle du Christ pour, par l'amour, justement d'acceptation de cette souffrance, être diffusée dans l'Église, être diffusée dans les âmes, être diffusée vers les âmes qui se ferment au don de la foi, qui se ferment à la grâce, qui se ferment à la conversion. Et c'est en ce sens-là qu'il faut comprendre justement cette parabole qu'est la souffrance de tout mystique. On avait parlé de la bienheureuse Chiara Luce, et on retrouve un peu le même schéma dans la vie de la bienheureuse Alexandrina, dans le sens où notre monde va plutôt cacher ou dévaloriser la souffrance, va dévaloriser justement le fait d'être entravé dans son action, dans son activité, dans son indépendance. Et c'est au contraire pour la bienheureuse Alexandrina, comme pour la bienheureuse Chiara Luce, comme la petite Thérèse à la fin de sa vie en 1897, eh bien c'est dans l'extrême vulnérabilité de la douleur, dans l'extrême fragilité de la souffrance, dans l'extrême pauvreté, dans l'extrême dépouillement de cette souffrance, qui a une union intime, mystique. On parle de l'alliance, hein, la symbolique nuptiale sur laquelle nous étions déjà attardés. Eh bien, c'est là qu'il y a effectivement un renversement au niveau de la grâce, qui n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on va conquérir parce qu'on est fort ou qualifié, mais c'est Dieu qui qualifie, c'est Jésus qui qualifie. Et Jésus qualifie, justement, en tant qu'il est le chemin. Et le chemin, eh bien, le chemin, c'est cette via crucis, c'est ce chemin justement de renoncement, de dépouillement, de pauvreté, de vulnérabilité. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort. Et parce qu'il a choisi ce qui est faible dans le monde pour confondre ce qui est fort, on sait dans notre cœur, dans notre foi, que nous n'avons pas inventé justement le Dieu auquel nous croyons, mais que ce Dieu, par sa puissance, rend fort ce qui est faible, et il abat les puissants de leur trône, comme dit Magnificat. Donc on a un renversement de perspective, car dans notre culture, comme toujours dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, on magnifie la force, on magnifie la puissance, on magnifie la santé, on magnifie la réussite. Mais dans l'économie de la grâce, ce qui justement semblerait fort, ce qui justement semblerait promis à un avenir, à un horizon d'accomplissement, eh bien ce n'est pas cela que Dieu choisit. Dieu qualifie ce qui est faible. C'est Jésus qui qualifie, et Jésus qualifie les plus pauvres, les plus petits, les plus faibles. Et c'est pour cela justement qu'on a à comprendre dans notre foi des vies mystiques comme celle de la bienheureuse Alexandrina, de la bienheureuse Chiara Luce dont on avait parlé avant, parce que c'est dans l'amour qui accepte justement ce chemin d'union à Dieu dans le calvaire, dans l'offrande, que va se déployer la force, la puissance de Dieu, et que cette puissance de Dieu va travailler pour féconder dans l'âme du mystique, de la mystique, comme la bienheureuse Alexandrina, eh bien, les dons, les charismes de l'esprit qui vont être donnés, répandus dans l'Église pour l'évangélisation, répandus dans l'Église pour porter du fruit. Comme dit l'Évangile, hein, la parole de Dieu, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu une offrande, un don, un sacrifice, comme Jésus au calvaire, eh bien, il va y avoir un fruit. Et ce fruit, ça va être un fruit de vie. Voilà. Et c'est parce que c'est un fruit de vie qu'il y a un passage par le calvaire, par le Golgotha, par l'offrande, la souffrance. Et on voit souvent dans les vies chrétiennes authentiques qu'il y a effectivement cette présence mortifiante d'une faiblesse, d'une fragilité, d'une souffrance qui va se retourner en lumière, en grâce, en fleuve d'eau vive, en grâce, en don, en fécondité pour l'Église, pour l'évangélisation, parce que cette souffrance, c'est la souffrance du cœur de Jésus, c'est la souffrance du Seigneur sur la croix, c'est la souffrance aussi qui est actualisée de façon non sanglante dans le saint sacrifice de la messe. Et c'est cette souffrance du Christ sur la croix qui nous sauve, qui nous guérit. Par ses blessures, nous sommes guéris. Et Alexandrina, dans tout le chemin de sa vie terrestre, de son pèlerinage terrestre, a assumé, eh bien, cette identification, cette union à Dieu, au Christ crucifié. Et on a là un profond mystère qui rejoint aussi d'ailleurs la nuit de la foi dont nous avons vu il y a un instant qu'elle souffrait, comme souffrait d'ailleurs dans la nuit de la foi Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, et qui est justement cette union, cette relation nuptiale, cette alliance avec le Seigneur. Dans ce qu'il y a de plus profondément douloureux, qui est le déchirement du cœur de Jésus dans la souffrance du Golgotha, hein, de sentir vraiment broyé par le péché, hein, dont il va sortir victorieux par sa résurrection. Donc c'est en vue de la vie, c'est parce qu'il y a une issue victorieuse de la résurrection, qu'il y a ce chemin, cette via crucis, ce renversement où ce qui a l'air puissant, fort, établi et victorieux, eh bien, va être laissé de côté, et qu'au contraire, le Seigneur qualifie de petites âmes, des petits, comme Alexandrina, comme Chiara Luce, comme Thérèse de Lisieux, et comme tant d'autres, à la suite de Jésus. Jésus, le premier-né de toutes les créatures. Et ce premier-né de toutes les créatures, eh bien, il passe par le creuset du Golgotha. Et à des titres divers, tout baptisé va être conduit par ce chemin, pas avec une telle intensité que dans la vie de la bienheureuse Alexandrina, au point d'être handicapé ou d'être grabataire toute sa vie, mais à un certain degré, chacun va prendre sa part des souffrances du Christ. Comme dit saint Paul, je complète par mes souffrances la souffrance du Christ, voilà, la souffrance rédemptrice du Christ. Donc, si vous le permettez, maintenant, nous allons peut-être regarder quelques textes, quelques très beaux textes de la bienheureuse Alexandrina. Et Un premier texte de son journal spirituel du 28 septembre 1944 nous apprend comment Alexandrina vit eh bien, cette union mystique avec le Seigneur, avec le cœur de Jésus, et qui, devenant de plus en plus intense, va provoquer l'intensité des attaques du malin, l'esprit du mal. Et c'est Alexandrina qui parle. Je sentais aujourd'hui le démon à mes côtés, et à l'intérieur de moi, je sentais un désir insupportable d'aimer Jésus, de lui donner des âmes, de le connaître et le faire connaître. Folle d'amour, je répétais Jésus, Jésus, amour, amour. Entre-temps, je ne pouvais contenir mes larmes en sentant ma misère, le bourbier où j'ai vécu et cette boue dans ma vie qui me causait horreur. Mes désirs ne valaient rien, tout était perdu. Je me sentais dans un cimetière immense et ma douleur presque sans vie, presque comme si elle ne pouvait plus bouger, simplement couverte de cendres, me rappelant ces vers qui, dans les pinèdes, faisaient leur maison sous des monticules de terre et de bois triturés. Au milieu de tout cela, il y avait toujours mon offre à Jésus comme victime et toujours la crainte de l'offenser. C'est un combat terrible, presque continu. Je vis sans vivre, j'aime sans aimer. Donc, le fait de pressentir à ses côtés la présence tentatrice, accusatrice du démon va en retour intensifier dans le cœur de la bienheureuse Alexandrina son amour pour Jésus, son amour pour les âmes, son désir d'être sacrifié, de rejoindre Jésus dans l'épreuve, dans la grande épreuve du Golgotha. Et elle déclare: En tout temps, j'ai eu besoin d'âmes victimes. Alors là, c'est plutôt Jésus qui parle, mais c'est la spiritualité de la bienheureuse Alexandrina. En tout temps, j'ai eu besoin d'âmes victimes, et maintenant, plus que jamais, je t'ai destiné à être immolé en cette époque pendant laquelle l'humanité est plongée dans un immense océan de boue, de vice. C'est de cela que je t'ai enlevé du monde. C'est le vice le voleur de tout ce qui est à moi. Là, on a effectivement un rappel du péché du monde, hein. Comme on l'entend souvent chers auditeurs, dans les podcasts du frère Boris Brown, dans Medjugorje, le message, hein, la Sainte Vierge, la Gospa rappelle souvent qu'il faut se convertir, qu'il faut prier, que Satan est fort, et que le vice, justement, la dégradation de l'âme humaine, qui se ferme au don de la grâce, qui ne suit pas la parole de Dieu, qui fait la sourde oreille, bien, Satan est fort. Et les âmes victimes, comme Alexandrina, comme Sainte Faustine, comme d'autres, vont être celles qui porteront justement leur part de cette souffrance offerte dans une épiphanie de l'amour, pour sauver les âmes, pour racheter, pour consoler Jésus. Et Alexandrina déclare: Ô vie combien amère! J'ai l'impression de ne plus pouvoir vivre, mon cœur est broyé, les pierres qui servent à le triturer ont la taille du monde. Le moulin ne cesse pas de moudre, la douleur, elle non plus, ne peut pas cesser. Moi-même, je ne le veux pas. Ô Jésus, c'est ma volonté d'être broyé, brisé par amour pour vous. Et étant donné que je ne sais pas vous prouver autrement mon amour, je veux, dans la douleur et dans l'amertume, que de mes lèvres ne sortent que ces paroles. Tout pour votre amour. La douleur est ma pierre précieuse, déjà ici sur la terre, elle est mon trésor. Je dépose tout entre vos mains afin que vous en fassiez la distribution à qui vous voudrez. Donc, on a effectivement dans cette déclaration de la bienheureuse Alexandrina une notion d'offrir la souffrance comme si la souffrance était, je dirais, une activité. Et c'est très intéressant de souligner que, comme pour Sainte Faustine, comme pour la petite Thérèse de Lisieux, comme pour Chiara Luce, on retrouve chez la bienheureuse Alexandrina ce renversement de la grâce. Où ce qui est brisé d'un point de vue médical, d'un point de vue humain, devient ce qu'il y a de plus agissant. Parce que justement, c'est l'amour pour Jésus qui, chez la bienheureuse Alexandrina, va la conduire à s'offrir de plus en plus, à se laisser consumer par l'amour de Dieu, comme dit l'acte d'offrande de l'amour miséricordieux du bon Dieu, la petite Thérèse, se laisser consumer par cet amour consumant, par ce amour transformant, pour se sacrifier par amour, justement pour les âmes, comme disait la petite Thérèse, on revient toujours, et toujours même à Rome, à la petite Thérèse, au cœur de l'Église, elle le dit, elle sera l'amour. Eh bien, cette âme victime qui est Alexandrina, elle s'offre et elle ne peut pas offrir plus, agir plus, qu'offrir totalement cette souffrance. Et on revoit parallèlement la même chose dans la vie de la bienheureuse Carolucci. Effectivement, Alexandrina a une conscience aiguë du péché. Quel grand mal est le péché, déclare-t-elle. Mon Dieu, quelle nuit terrible dans mon âme. Jésus a commencé par me dire, le péché essaie de broyer et d'anéantir mon divin cœur. Quel grand mal est le péché? Regarde les mauvais traitements que je reçois. Sais-tu de qui? De ceux qui les premiers devraient m'aimer, desquels j'attendais tout. Répare si tu veux qu'ils se convertissent. Laisse-toi immoler si tu veux qu'ils soient sauvés. Tu es leur victime. Voilà. L'invitation de Jésus, et c'est une invitation qui nous adresse à chacun de nous, à chacune de nous, à chacun de nous, de prendre notre part, justement, dans notre cœur, dans notre vie, de cette offrande, de ce sacrifice, nous sommes en temps de carême, pour la conversion des pécheurs. Et la prière de l'ange de Fatima se termine par la demande de la conversion des pécheurs, par les mérites des 13 saints cœurs de Jésus et de Marie. Donc, Alexandrina réfléchit à ce sens du péché et elle déclare: lundi, au commencement de la Sainte Messe, disparaissait de mon âme cette nuit sans lumière qui ne me causait que la mort. Les doutes ont disparu. Peu avant la communion, j'ai ressenti une force que je n'ai pas pu dominer. Je me suis agenouillé. Dans cette position, j'ai reçu Jésus. Je suis resté longtemps ravi, tellement uni à Jésus qu'il me semblait me trouver dans une autre région. J'avais de très fortes impulsions pour aimer Jésus. Il m'a dit ses désirs. Sur la terre, l'amour est presque disparu des cœurs. Voilà la raison des souffrances de Jésus. Il n'y a pas d'amour pour réparer les péchés de l'humanité. On blesse son divin cœur. Voilà. Le Christ, le Seigneur, a soif de notre amour, de notre dévotion, de notre sacrifice. Et ce cri qui retentit au calvaire, j'ai soif, hein, ce cri du Seigneur va être abreuvé d'amertume, hein, du vinaigre qui va être porté à ses lèvres. Et dans sa candeur, dans sa naïveté, la bienheureuse Alexandrina ne sait plus que faire en prenant conscience des péchés à son échelle, donc dans son peuple au Portugal. Et elle déclare: Ô Jésus, que puis-je faire pour cela? J'accepte tout, je ne veux pas vous voir souffrir. J'écrirai à Salazar. Salazar, c'était le dictateur portugais à l'époque. Lui, plus que tous les prêtres, peut mettre un terme à tant de péchés. J'en parlerai à mon père spirituel et je ferai tout ce qu'il me permettra de faire. Voulez-vous que j'écrive à votre cher cardinal patriarche? Les deux ensemble seront l'instrument pour sauver le Portugal et faire que votre très saint cœur ne soit plus offensé. Je le ferai, ô Jésus, mais j'aimerais que personne ne le sache, excepté eux et les personnes que mon père spirituel jugera opportun d'informer. Voilà. Donc la bienheureuse Alexandrina prend conscience de l'urgence de la conversion, l'urgence de la rédemption, du salut des âmes. Et dans sa candeur, eh bien, elle se dit qu'elle va écrire au chef d'État, qu'elle va remuer ciel et terre pour empêcher le mal, empêcher le péché de causer justement une conséquence dramatique pour son pays, qui est le Portugal, qui est un petit pays, hein, d'Europe, qui serait d'entrer dans la guerre, d'être à son tour aspiré dans la machine à broyer de la guerre. Hein. Et elle déclare également: Je crois mourir rien que de penser à vendredi et aux souffrances qui m'attendent. Si Jésus ne prend pas ce pauvre corps pour souffrir dans celui-ci et le soutenir, je ne résisterai pas, je mourrai. Je sens de continuels coups de marteau dans mon cœur. Une foule universelle lui donne l'assaut et le blesse. Toutes ces souffrances viennent sur moi, j'en suis dépositaire, mais elles sont destinées à Jésus. Elles sont destinées à Jésus. L'attaquer et le blesser, c'est le cœur de Jésus. Il me semble voir Jésus les bras ouverts, me demandant compassion et de souffrir avec lui. Le fait que Jésus se tourne vers une créature humaine et s'abaisse qu'à lui demander de souffrir avec lui m'anéantit. Lui qui est la force, la vie, tout, avoir besoin d'aide de cette pauvre qui n'est qu'un néant. Voilà. Donc on retrouve le thème théologique de la rédemption, le thème paulinien du fait de rajouter par ses souffrances à la souffrance, ce qui manque à la souffrance du Christ. C'est dans le calvaire, dans le drame du Golgotha, que c'est définitivement lié notre rédemption. Hein, c'est dans le sang précieux de Jésus que se lie notre rédemption. Et c'est dans l'intimité avec le Seigneur que la bienheureuse Alexandrina va être saisie par ce mystère du salut, ce mystère pascal, où elle va offrir quotidiennement, mais notamment le vendredi, des souffrances qui vont véritablement la briser. Hein. Elle le décrit très bien, comme on vient de le voir. Et cette souffrance, eh bien, c'est, je dirais, une toute petite, infinitésimale partie de la souffrance de Jésus, du poids infini du péché sur les épaules du crucifié. Et c'est dans cette mesure, justement, qu'on comprend, à travers la parole de Dieu, à travers aussi le fait de vivre vraiment profondément la Sainte Messe, ce que c'est justement que le sens du péché. Voilà. Et aujourd'hui, on pourrait dire que le sens du péché s'est effacé pour la plus grande partie de ce qu'on peut voir autour de nous. Le sens du péché s'est effacé. On a plutôt le sens de l'intérêt, le sens de la réussite, du succès, mais on a perdu, on a effacé le sens donc du péché. Alors, on peut, à travers d'autres textes, la bienheureuse Alexandrina, si nous avons encore un peu de temps, Olivier, peut-être poursuivre notre parcours afin de plus entrer plus avant dans cette spiritualité.
Il nous resterait, à dire vrai, Fabien Millet, 2 petites minutes d'antenne.
Alors on peut peut-être conclure, puisqu'il ne nous reste plus que 2 minutes, mais nous avons fait quand même le tour de beaucoup de thématiques de la spiritualité de Bienheureuse Alexandrina, dont je rappelle souffrir, aimer, réparer. Hein, c'est tout uniment souffrir, aimer, réparer. Alors, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Maria France, donc vous pouvez retrouver un très grand nombre d'informations sur la Bienheureuse Alexandrina, sa spiritualité, sur le site internet tout attaché en minuscule alexandrinadebalazar.free.fr. Vous pouvez également vous rendre sur une librairie en ligne qui est dédiée aux amis de la Bienheureuse Alexandrina, qui s'appelle Alex Diffusion, hein, free.fr. Et sur cette librairie en ligne, vous trouverez de très nombreux livres, notamment de l'ancien père spirituel d'Alexandrina, de son biographe, très nombreux livres qui vont mieux vous exposer quelle était la vie et la spiritualité de la Bienheureuse Alexandrina. Alors rappelons qu'elle était coopératrice salésienne, donc les Salésiens que l'on connaît bien, et qu'elle a été béatifiée par le pape Saint Jean-Paul II le 25 avril 2004. Voilà. Et que c'est un Salésien qui est le postulateur de la cause de canonisation de la Bienheureuse Alexandrina. Donc béatifiée un 25 avril 2004, 25 avril, une date importante pour le Portugal, puisque c'est l'accession à la démocratie. Mais en tout cas, la Bienheureuse Alexandrina intercède pour nous dans ce carême et nous incite justement à prendre plus conscience des grâces du cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie pour entrer plus avant dans la conversion et entrer justement dans cette union, dans cette relation nuptiale avec le Seigneur pour prendre notre part de sacrifice et accepter justement que eh bien, d'autres âmes dans notre entourage, dans l'Église et en dehors de l'Église, reçoivent cette lumière de la foi pour laquelle la bienheureuse Alexandrina a tellement aimé, tellement souffert et tellement voulu réparer.
Chers auditeurs, c'était notre émission Interview Témoignage. Vous étiez avec Fabien Millet qui nous parlait de la bienheureuse Alexandrina de Balazar. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.